Bonjour à tous, je suis Gérard Crozat, responsable de la pastorale de la santé, ou plus exactement coordinateur de la pastorale de la santé pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et je suis en compagnie d'Olivier Houdemont, qui a la direction de l'EHPAD Marie-Saint-Fray à Tarbes.
Bonjour Gérard.
Bonjour et merci de nous consacrer ce petit moment. D'abord, peut-être, c'est quoi un EHPAD?
Alors, un EHPAD, c'est un établissement d'habitation pour personnes âgées dépendantes. Alors, c'est assez important de le rappeler. L'acronyme en lui-même, il est parlant en fait, parce que on commence par poser un établissement d'habitation ou d'hébergement. Donc, ça veut dire que c'est d'abord un lieu de vie avec un le gîte et le couvert. C'est notre première mission, c'est d'accueillir des personnes âgées pour assurer pour elles la sécurité, etc. Mais assurer surtout un cadre de vie dans lequel elles vont pouvoir vivre et les accompagner dans cette vie. Et puis à la fin vient le dé de dépendance. Et avec ce dé de dépendance arrive la notion de soins, que ce soit des soins techniques réalisés par les infirmières, des pansements, des choses comme ça, ou des actes de la vie quotidienne, ce qu'on appelle les AVQ, les actes de la vie quotidienne, qui sont des soins davantage faits par les aides-soignantes, et ça va être la toilette, ça va être toutes les aides en fait, hein, puisqu'on parle de dépendance, mais le reflet ou l'effet miroir de la dépendance, c'est l'autonomie. La dépendance, elle s'installe quand il y a une perte d'autonomie, donc nous, notre mission, ça va être de maintenir l'autonomie le plus possible. Et dans ces actes de la vie quotidienne, on va intervenir en soutien des personnes âgées pour les aider à se lever, pour les aider à s'habiller, pour les aider à manger quand c'est nécessaire, etc., etc. Voilà. Donc c'est bien un lieu de vie, un EHPAD.
Quelques chiffres. Combien de résidents, le personnel, combien de personnes?
Alors, à la maison Marie-Saint-Fray, on a une capacité d'accueil de 110 lits en hébergement permanent et de 2 lits en accueil temporaire. Les accueils temporaires, le but c'est d'accueillir des gens pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'objectif c'est surtout, principalement, de faire des séjours de répit pour les familles, pour soutenir un peu les familles quand elles ont besoin de souffler un petit peu. Et du point de vue du personnel, on est sur un peu plus de 60 personnes, tous métiers confondus, puisque ça peut paraître beaucoup, hein, on se dit oh, c'est plus de 1 pour 2. En fait, il faut les répartir tous les jours de la semaine. 365 jours par an, et jour et nuit. Donc on a des personnes qui sont là la nuit, on a 3 veilleuses de nuit chaque soir. Donc 3 veilleuses de nuit, ça veut dire qu'il en faut 6, parce qu'il faut assurer tous les soirs. Et puis on va doubler comme ça toutes les équipes. Voilà, donc 60 personnes, ça peut paraître important, mais en fait, en réalité, sur une journée de travail classique, par exemple, on va avoir 9 aides-soignantes dans la journée pour s'occuper des 112 personnes. On va avoir 2 à 3 infirmières, plutôt 2 que 3 d'ailleurs, et puis le personnel administratif, et chacun dans son métier, puisqu'on parle de travail en équipe pluridisciplinaire, chacun dans son métier intervient sur son champ d'action. Donc les agents de service logistique, ils font du ménage, parce qu'il faut entretenir les chambres, il faut, voilà, tous ces actes de la vie quotidienne, il faut les faire aussi. Et donc voilà, chacun, les hommes d'entretien qui vont entretenir la maison, et puis la partie administrative aussi, des professionnels de santé ou paramédicaux, les kinés, l'ergothérapeute, la psychologue, tous ces gens-là qui vont être autour des résidents. Alors, pour maintenir les aider dans leur autonomie, et puis aussi pour construire des projets de vie. Ça peut être surprenant quand on parle d'EHPAD, mais en EHPAD, on fait des projets de vie. Ça veut dire que la vie est présente dans les EHPAD, et chaque résident fait l'objet d'un projet de vie, ou plutôt, si on veut être plus élégant, est sujet d'un projet de vie. Pas fait l'objet, parce que fait l'objet, c'est le mettre en passif. Il est acteur de son projet de vie. Et en fonction de ses capacités, de ce qu'il veut faire, eh ben, on l'accompagne et on construit on met, on se fixe des objectifs pour développer son autonomie et sa vie dans l'établissement.
La moyenne d'âge des résidents?
Alors, la moyenne d'âge des résidents, on est aujourd'hui sur plus de 85 ans. Sachant que cette moyenne d'âge, elle est faussée, entre guillemets, par des résidents que nous avons depuis de très nombreuses années, qui sont rentrés très jeunes. Et aujourd'hui, la tendance depuis ces dernières années, c'est de, si on prend que les gens qui sont rentrés au cours des 2 ou 3 dernières années, on va être à plus de 90 ans. En fait, parce qu'aujourd'hui, la pyramide des âges en France qui pousse vers le haut, hein, puisqu'on est au début aujourd'hui du papy-boom, qui est la résultante 70 ans après du baby-boom d'après-guerre, eh bien en fait, fait qu'on a en France une demande très grande de personnes très âgées, de plus en plus âgées, de plus en plus dépendantes. C'est à la fois donc le baby-boom et aussi l'amélioration de la santé qui fait que les gens vivent de plus en plus âgés. Et donc, on a les EHPAD aujourd'hui sont à la pointe, je dirais, de l'accueil des personnes très âgées, très dépendantes. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à accueillir des gens vraiment très dépendants. La vision qu'on pouvait avoir il y a encore 10 ans d'une maison de retraite où on choisit d'aller pour être en sécurité, avec un lien social, des amis qu'on peut se refaire, etc. C'est plus la réalité d'un EHPAD aujourd'hui. L'EHPAD aujourd'hui, c'est vraiment la prise en charge de personnes très âgées, très dépendantes. La maison de retraite d'autrefois, il y a 10 ans, c'est devenu aujourd'hui les résidences seniors. Voilà. Donc c'est, on a un métier qui évolue un petit peu. Voilà.
Quand on a 85, 90 ans, on peut avoir un projet d'avenir?
Oui. Oui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il reste, on a des gens qui sont parfois, avec des démences, par exemple, très très importantes. Dont on peut se dire. Alors il y a un côté mystère quand même, ces maladies. Notamment moi dans la démence, j'avoue que à titre personnel, ça m'interroge beaucoup, ça m'interpelle. Il y a un côté très mystérieux. Je me souviens quand j'ai commencé, ça fait 6 ans que je suis à la maison Saint-Fray, c'est le fruit d'une reconversion. Et avant, j'ai donc fait un master à Toulouse. Et quand j'étais en stage, mon premier stage en EHPAD, on m'a demandé d'aider une dame qui était dans un fauteuil coquille, donc complètement grabataire, à manger le midi. Sous la surveillance d'une aide-soignante qui était à côté de moi. Et je lui mettais une cuillerée de soupe, par exemple, dans la bouche, et elle crachait plus de la moitié. Et il fallait continuer, essuyer, recommencer. Et pendant 2 jours, j'étais dans cette relation avec cette dame qui ne, enfin, à mon avis, il n'y avait pas de relation, de mon point de vue. Jusqu'au jour où, le 3e jour, elle a levé ses yeux, et nos regards se sont croisés. Et il a fallu 3 jours pour qu'elle lève ses yeux, et moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Parce que dans ses yeux, j'ai vu une étincelle de vie. Et donc, oui, il y avait une vie. Et cette vie-là, elle est fragile, bien sûr. Elle est très ténue. Mais elle a, justement, c'est cette vie-là dont il faut qu'on prenne soin. Et elle fait appel à... Elle nous demande, elle exige tous nos soins pour la préserver, pour la protéger. Alors, évidemment, un projet de vie, quand on est dans cet état-là, c'est quoi? C'est peut être très simple. Ben déjà, c'est de se nourrir, c'est de s'alimenter. C'est d'être là, c'est d'être à côté d'elle, c'est de pouvoir l'emmener parfois sur telle ou telle animation où elle profitait de la musique. Évidemment, on ne va pas aller faire une excursion en montagne. Voilà. Il faut adapter. Mais toute personne, même très 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 dépendante, il y a toujours une humanité qui reste, il y a toujours une dignité qui reste, il y a toujours la possibilité d'aller chercher, avec ce qui reste, la possibilité de faire un projet.
Voilà. C'est donc l'EHPAD est vraiment le lieu où, en fait, où il y a toutes ces étincelles. Et votre travail, c'est de les servir d'une certaine manière.
Oui.
Une diaconie de l'étincelle, on pourrait dire.
Oui, tout à fait.
Et donc, oui. le personnel y est sensible. Est-ce que les familles ont conscience de ça lorsqu'elles inscrivent un membre de leur famille?
Quand on parle avec des familles, non, on n'a pas toujours cette conscience-là, au début. Il y a un travail d'accompagnement des familles aussi qui est à faire. Les familles, elles sont quand il y a une entrée en EHPAD, comme je le disais, hein, aujourd'hui la famille souvent quand on accueille une personne en EHPAD, on est souvent au bout des capacités de la famille dans l'accompagnement. Souvent les familles peuvent le vivre comme un échec. On n'arrive plus à s'occuper de notre mère, on n'arrive plus à s'occuper de notre père, et on n'y arrive plus. Donc ça c'est douloureux, c'est très très douloureux. Notre rôle à nous, il est certainement pas d'être dans le jugement, au contraire, il est de prendre le relais, parce qu'effectivement, à un moment donné, on n'y arrive plus. Quand on voit que nous, je parlais des effectifs tout à l'heure, on a des gens qui sont là jour et nuit, cet accompagnement jour et nuit, une famille ne peut pas le faire. Les familles qui le font pendant un temps, notamment sur les maladies, notamment de démence, elles s'épuisent très vite, parce que c'est jour et nuit qu'il faut se lever, aller surveiller, elle s'est levée, ma mère, elle a commencé à déambuler dans la maison, elle est sortie, elle est partie dehors, il faut la rattraper. Ça, c'est nos maisons familiales ne sont pas adaptées, Sur le plan physique aussi, la baignoire, c'est pas pratique de mettre une personne âgée dans une baignoire. On n'a pas les installations nécessaires. Les escaliers, c'est vite juste un enfer, un obstacle incontournable, infranchissable plutôt. Et puis, la personne va sortir, va s'égarer dans la rue. Voilà. Toutes ces difficultés-là font que ça devient vite insurmontable. Donc, quand la personne nous est confiée par la famille, quand elle nous est confiée, souvent la famille est dans un état parfois d'épuisement physique et moral fort, ou quand c'est pas le cas, de toute façon il y a cette espèce de reproche qu'elle se fait elle-même, ce sentiment de culpabilité. Et notre rôle, ça va être souvent de déculpabiliser les choses, déjà. Et puis le deuxième rôle, la deuxième explication qu'on va avoir à donner, c'est dans l'accompagnement de cette fin de vie. Parce qu'on est quand même souvent sur une fin de vie, même si ce n'est pas une fin de vie immédiate, c'est une fin de vie à plusieurs années, hein. Mais cette acceptation petit à petit de la diminution des capacités, de la diminution de l'autonomie, de l'installation de la dépendance, de la survenue de pathologies qui peuvent être lourdes, qui peuvent être compliquées à gérer. Et il va falloir qu'on ait un accompagnement et qu'on aide les familles à comprendre que dans la relation qu'elles ont avec leurs parents, il faut aussi s'appuyer sur ce qui reste. Et parfois, le ce qui reste, c'est mon parent qui ne me reconnaît plus. Comment je fais pour vivre ma relation avec mon père, avec ma mère, s'il ne me reconnaît plus? Et c'est petit à petit, par l'accompagnement des équipes aussi, par les soins quotidiens, qu'on arrive petit à petit à faire en sorte que on se retrouve différemment, dans une relation différente, évidemment. Mais on y arrive. Voilà. C'est tout un cheminement. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend. Voilà. C'est un cheminement des familles d'abord. C'est pas nous qui le forçons. C'est pas nous qui allons l'imposer. Nous, on est juste témoins de cette vie-là. On fait notre part, principalement dans les actes de la vie quotidienne, et on dit aux familles, voilà, nous, on va s'occuper de ça. On s'occupe de la sécurité, on s'occupe de la vie quotidienne. Vous, réservez-vous la relation. Voilà.
Vous ne devenez pas, comme certains peuvent le croire, la famille.
Non.
La famille a son rôle, vous êtes là pour soutenir la famille en leur faisant en apportant toute une aide technique, on pourrait dire, que la famille ne peut plus faire.
C'est ça.
Et je peux témoigner, moi, en accompagnant des personnes dans le deuil, par exemple, souvent ils se reprochent ça. Ils disent, voilà, on n'a pas pu la garder à la maison.
Oui, c'est ça.
C'est la
Il y
phrase
a
qu'on
cette
entend souvent.
culpabilité. Une équipe soignante, c'est une. Alors, il y a un lien qui va se créer. On n'est pas la famille, on ne sera jamais la famille d'un résident. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des liens.
Qui est une affection.
Voilà, il y a une affection qui se noue avec le résident. Et très souvent avec la famille. Moi, j'ai été témoin une fois à la maison Marie-Saint-Fray, suite au décès d'une résidente qui était chez nous depuis plusieurs années. J'ai été témoin d'une aide-soignante qui est tombée dans les bras de la fille. Alors, je sais pas qui est tombé dans les bras de qui d'ailleurs, la fille de la dame qui venait de décéder. Elles se connaissaient depuis 7-8 ans. Et elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre en pleurs, les deux. Et il y a un piège dont il faut se méfier pour les professionnels de santé. Quand ça s'est produit, ce cas-là, l'aide-soignante qui était là s'est retournée vers moi et me voyant dans le couloir, elle m'avait pas vu parce que j'étais dans son dos, elle s'essuie la figure et elle me dit, je suis pas professionnelle. Réflexe d'une professionnelle, justement, à qui on a dit pendant toutes ces études d'aide-soignante, mettez les sentiments à distance, etc. Et ça, c'est terrible parce que c'est juste impossible. Et on n'a pas à mettre nos sentiments à distance. Évidemment, il faut qu'on soit professionnel. Évidemment, il faut qu'on ait. On ne peut pas se laisser déborder. Mais dans un instant de deuil, justement, comment on peut vivre et accompagner la personne dans le deuil en disant, je reste à distance, je ne suis pas. Non, évidemment, on vit avec les personnes âgées. On s'attache à eux, on s'attache à elles, on s'attache à leur famille. Et c'est cette relation. Je dis souvent, qui vit dans une maison de retraite? Évidemment, les résidents. Mais évidemment aussi les soignants. On y passe plus de temps dans la maison de retraite, dans l'EHPAD, que chez nous. Enfin, si on enlève le temps de sommeil, on passe plus de temps, on vit dans notre lieu de travail, tous. Voilà. Alors nous, en tant que travaillant dans un EHPAD, on vit dans l'EHPAD, avec les personnes âgées. Mais on n'est pas là, on ne sera jamais là pour prendre la place de la famille. Ça, c'est pas possible.
En d'autres termes, on tisse deux humanités, celle de la famille et celle du soignant, ou de l'accompagnateur, enfin, oui, ils sont tous soignants, du soignant pour faire ce tissu qui va supporter justement la personne dépendante.
Oui, et puis pour être aussi un relais entre le résident et la famille, il y a cet accompagnement-là aussi, maintenir ce lien. C'est important. Ça a été particulièrement important cette année, avec le Covid, où on a quand même, avec le Covid, eu des périodes de confinement, où il n'y avait plus de visites, etc. Et donc, il a été important pour que toutes les équipes se mobilisent pour maintenir des liens sociaux. Alors, déjà, des rencontres entre personnes humaines. Il y a eu des dispositions qui ont été prises, notamment au mois de mars l'année dernière, qui étaient profondément déshumanisantes. Quand on a dit on vous conseille de mettre les résidents en chambre, et de les confiner en chambre, pour une durée indéterminée, c'est d'une violence inouïe. Alors nous, on l'a pas fait. On a décidé de ne pas le faire. On a fait ce choix en équipe, hein, en réflexion, en pluridisciplinaire, en faisant des chambres. Ils vont décompenser, ils vont déprimer, et on aura des décès, de manière sûre, certaine, en prenant sur nous des mesures barrières, c'est-à-dire l'application des mesures barrières, et du coup en préservant l'humanité des personnes. La principale humanité, raison de l'humanité des personnes, c'est la relation. Dans la Bible, dans la Genèse, vous avez la création, le récit de la création, et vous avez homme et femme, il est clair, à son image, il est clair. L'image de Dieu n'est reconnue dans l'homme et dans la femme qu'à partir du moment où ils sont deux, et où ils peuvent être en relation. Et c'est l'image de la Trinité, qui est en relation permanente. Si on n'a pas cette relation, on coupe totalement, on détruit, on mutile, alors à la fois l'image de Dieu et l'humanité, tout entière. Et donc, il faut la maintenir à tout prix.
Vous parlez de la Genèse et de l'image de Dieu. Vous êtes dans une maison confessionnelle qui a été créée par les sœurs de Marie-Saint-Fray, les sœurs de Notre-Dame des Douleurs, oui. Qui sont bien connues sur Tarbes, sur le diocèse aussi, mais sur Tarbes en particulier. Je crois que tout le monde a beaucoup d'affection pour elles. Comment vous pouvez expliquer la différence entre justement l'accompagnement et souvent on dit que la pastorale de la santé, c'est porter la communion aux malades ou à une personne dépendante. Alors ça, c'est l'acte religieux. Quelle différence vous faites entre les deux, entre l'accompagnement et l'acte religieux?
Alors, c'est vrai qu'on est, nous, on a la chance, entre guillemets, d'être, on a la chance d'être dans un établissement congréganiste. Pour moi, c'est une vraie chance. Ça rejoint ma foi personnelle et mon engagement dans l'apostolat. Effectivement, les sœurs de Saint-Fray sont présentes à Tarbes, c'est la maison de fondation. Hein. On vit sur le lieu même de la fondation de la congrégation depuis 150 ans, un peu plus maintenant. On a la chance d'avoir la chapelle et d'avoir un aumônier avec la messe tous les jours. On a tous les jours 30, 40 résidents qui vont à la messe tous les jours. On a des offices qui sont célébrés et les résidents peuvent y aller. Si on est effectivement sur une vision de la pastorale qui est l'accès au sacrement, j'amène la communion, je suis dans la pastorale de la santé, et qu'on se contente de ça, je me rends compte que c'est très bien, j'ai 30, 40 résidents qui vont à la messe tous les jours, très bien. Et les 80, les 70 autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et les non-chrétiens, est-ce qu'ils ont droit ou pas à une pastorale? L'Organisation mondiale de santé définit la santé comme le bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Donc l'OMS, qui n'est pas l'Église catholique, hein, définit bien que la santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Donc la relation, on la retrouve. Dans le mental, etc., bon, l'OMS ne va pas sur le spirituel. Mais si on prend un deuxième élément, qui est la pyramide de Maslow, avec les besoins qui vont des besoins primaires, se nourrir, se réchauffer, éliminer. Éliminer, c'est important, on n'est pas là. Et à la pointe, au sommet de la pyramide, on trouve les besoins de reconnaissance humain, on va retrouver la relation, et au-delà, tout à la pointe, l'accomplissement spirituel. Voilà. Ça fait partie, et ça, Maslow, c'est pas l'Église catholique. Il y a une dimension spirituelle dans l'homme. Tout homme, chrétien, pas chrétien. Alors, nous, à Saint-Fray, on est effectivement un établissement congréganiste, mais tous les salariés ne sont pas chrétiens, c'est pas un critère de recrutement. Tous les résidents ne sont pas chrétiens, c'est pas un critère d'entrée, d'admission dans l'établissement. On a des gens qui sont dans les résidents athées, qui sont chrétiens non pratiquants. On a eu une époque, on avait une femme qui était musulmane, etc., etc. Il faut qu'on ait la possibilité aussi de donner à d'autres personnes l'accès à leur culte, s'ils le souhaitent. Et puis, pour tout un chacun qui ne souhaite pas aller à la messe, etc., il y a quand même cette dimension spirituelle, pour un accompagnement spirituel. Quand je dis d'accompagnement spirituel, Je ne dis pas nécessairement l'accès au sacrement. Vous pouvez avoir une famille dans le deuil de son parent qui ne va pas aller à la messe parce que ce n'était pas le désir du parent, etc., qui pourtant nécessite d'être accompagné spirituellement dans son chemin de deuil. Ça ne veut pas dire coup de goupillon et sacrement. Donc y a, voilà, on voit bien, on touche bien du doigt que, évidemment, il y a une proposition de l'Église, évidemment, il y a une proposition des sœurs dans les sacrements, on fait toutes les fêtes religieuses, etc. Ça fait partie, là aussi, du projet de vie des résidents, de tous ceux qui le désirent. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on a des résidents qui ne sont pas dans cette démarche-là. Comment on les accompagne? Comment on accompagne leur famille qui refuse les sacrements parce que c'est pas leur, leur foi? Et il faut qu'on les accompagne malgré tout. Donc il y a nécessité d'avoir une présence, d'avoir des explications, d'être témoin d'une espérance. Et puis les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Une fois qu'on a témoigné de notre espérance, on est là pour proposer, pour dire, voilà ce qui existe.
Vous avez appris que le pape voulait, le quatrième dimanche de juillet, aux grands-parents et aux personnes âgées.
Moi, j'y souscris pleinement et complètement, pas seulement parce que c'est mon travail. Il y a une importance du regard qu'on porte sur la personne âgée et de changer un peu notre façon de voir les choses aujourd'hui. D'abord, elles ont une sagesse, elles ont construit notre pays, on leur doit énormément sur le plan même purement matériel de notre pays. Hein. C'est quand même une génération, ceux qu'on a aujourd'hui en EHPAD, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et de manière active. Donc on leur doit notre liberté, nos libertés. Et puis, au-delà de ça, on voit, moi je vois les enfants qui viennent en visite, les petits-enfants dans des vacances souvent, qui viennent parfois de loin, les arrière-petits-enfants. Donc toute cette relation-là, le rattachement à nos racines, quand ce sont nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut affirmer et il faut qu'on redécouvre cette richesse, nos aïeux.
La dernière question, dimanche prochain, le dimanche de la santé, pas des malades, ça sera jeudi le 11 février, et j'ai beaucoup apprécié le titre du pape dans son message, c'est la journée mondiale du malade, pas des malades, parce que c'est pas une masse, mais c'est au contraire chez chacun qui doit être pris dans son individualité. Donc dimanche, nous prierons pour tout le monde de la santé. Si vous deviez improviser comme ça une intention de prière pour la prière universelle de la messe, alors, que demanderiez-vous?
J'en ferai deux, en fait, dans deux directions. Une, effectivement, en direction du malade, parce qu'il faut qu'on prie pour tous les malades, pour chaque malade, parce qu'effectivement, c'est le malade, c'est pas les malades. Et je crois qu'on peut aussi, dans cette dimension-là, prier pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous concernés de près ou de loin par la maladie, en tout cas par la question de la santé. Et puis ensuite, il faut, le deuxième, ce serait dans l'autre direction, effectivement, vis-à-vis, à l'endroit des soignants. Et je vois, moi, je suis témoin de tous ces soignants qui se dévouent. Cette année, ça a été une année, encore une fois, avec le Covid, ça a été une année très, très marquante. Hein. Le Covid, c'est pas fini, malheureusement. Moi, j'ai vu le dévouement des équipes soignantes, qui est un dévouement entier. Je n'ai aucune aide-soignante, aucune infirmière qui s'est arrêtée parce qu'il y avait le Covid et parce qu'on avait peur du Covid. Elles sont restées toutes fidèlement là. On oublie très vite, hein. Mais au mois d'avril de l'année dernière, j'avais des aides-soignantes qui sont des jeunes mamans, qui avaient leurs enfants, qui étaient en garderie, avec d'autres soignantes, enfin les enfants d'autres soignantes qui étaient en secteur Covid. Et il y avait cette crainte de se dire, si mon enfant attrape le Covid, on ne savait pas du tout à l'époque si on allait tous en mourir ou pas. Travailler avec cette crainte-là, c'est quelque chose de très très important. Et elles sont restées totalement fidèles à leur poste, elles sont venues. Et moi, je leur tire vraiment un grand coup de chapeau. Parce que, voilà, les soignantes, je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir la reconnaissance des soignantes sur les salaires, etc. Il y a le Ségur de l'hôpital et puis les choses qui se font. Mais voilà, je crois que vraiment on peut prier pour elles parce que il y a un amour de la personne assez inconditionnel chez chaque soignante. Et ça mérite d'être souligné et d'être on peut prier pour elles.
Merci Olivier Houdemont. Je rappelle que vous êtes le directeur de la maison Saint-Fré de Tarbes. Et de continuer.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.